Bonjour. Monsieur Ferland. Madame Ferland, est-ce que vous pourriez fermer les portes d'entrée, s'il vous plaît? Ce serait fort aimable. Merci. Alors, bienvenue. On est à la leçon 2 qui couvre la leçon 1. On est déjà en retard. Ça, c'est assez commun avec mes cours. Si vous savez, si vous n'avez pas pris de cours avec moi, là, j'ai tout. OK. Merci. Ça, c'est les enseignants, hein? Il n'y en a jamais assez. Alors, sur les feuilles, c'est la leçon 1 qui est là, celle que vous avez reçue la semaine dernière. Il en manquait. Il manquait des copies la semaine dernière, donc on vous en a réimprimé une quinzaine. En principe, vous avez reçu un courriel si vous êtes sur la liste de courriels et si vous avez accès à des courriels, bien sûr. Samuel Flao a fait une page pour le cours. Donc, ce qu'on va faire cette session-ci, c'est que à chaque semaine, on lui envoie les notes, chaque fois qu'il y a des nouvelles notes, et elles sont là, puis vous les avez par leçon. Alors, vous pourrez toujours aller les rechercher, d'accord? Ce n'est pas un fichier qu'on bâtit avec tout le cours, ça va être un fichier par semaine. Vous trouvez ça sur la page d'accueil du site Internet ou dans le courriel qu'on vous envoie. Donc, dans le courriel que Danny va vous envoyer à chaque semaine, il va y avoir un lien, il n'y aura pas de pièces jointes, d'accord? Il va y avoir un lien. Puis chaque fois qu'il y a du nouveau matériel, on va quand même apporter des versions imprimées ici pour le groupe. D'accord? Alors, on va aller ensemble dans un mot de prière. Eh bien, Père éternel, merci pour ce temps qu'on peut prendre, pencher sur tes Écritures, sur ta parole. Je te demande, Seigneur, d'éveiller notre intelligence ce matin. Déguiser, Seigneur, ma pensée afin que mes idées puissent être communiquées clairement, que je puisse d'une part honorer ta parole entièrement et le communiquer bien, Seigneur, clairement, afin qu'on puisse grandir et devenir des adorateurs qui te plaisent, qui t'honorent et qui te glorifient. Père, merci pour tous ceux et celles qui font l'effort de se lever dimanche matin pour venir examiner tes Écritures. J'aimerais te prier, Seigneur, pour chaque personne qui prenne des cours. Nous voulons grandir. On ne se déplace pas simplement pour remplir notre pensée. Mais Seigneur, nous voulons vivre le premier commandement, t'aimer de tout notre cœur, de toute notre pensée. Viens Seigneur nous faire grandir cette session-ci, que nous terminions la session à travers les différents cours, spécialement ici, qu'on puisse grandir comme adorateur, Seigneur, et qu'on le voit dans notre vie, que cela apporte la joie d'être un adorateur qui te plaît. C'est en Jésus-Christ que nous te prions. Amen. Amen. Ça, c'est la copie d'Estin. Si tu veux une copie des notes, il faudrait que quelqu'un t'en apporte une en arrière. C'est la même que la semaine dernière. OK, mais on en a d'autres copies. Quelqu'un pourrait t'en apporter une. Je vais juste vous rappeler, le cours est basé sur un livre. OK. Le cours est basé sur un livre. Ça, c'est la version française. Il est en anglais aussi. Sur la page web, vous trouvez les références pour le livre. On verra pas tout ce qu'il y a là-dedans, je peux vous l'assurer. Alors, si vous restez sur votre faim à travers le cours, puis que vous aimeriez en savoir plus, mais prenez le livre. Je pourrais, si quelqu'un voulait le lire en anglais, je pourrais vous prêter ma version anglaise. Je me sers de la version française, mais je lis en anglais puis en français. Engaging with God, je pourrais prêter celle-là, si ce serait possible. Je vous demanderais de le demander à Danny avec un coup de téléphone. Venez pas me demander ça tantôt, je vais vous oublier, c'est sûr. C'est sûr, je suis un coup d'œil. OK. Je ne peux pas le prêter en français, je m'en sers pour le cours. OK, alors allons-y. Juste une petite révision rapide. Je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup de matière, beaucoup de matériel, et je veux terminer la leçon 1 cette semaine. La semaine prochaine, on va commencer à parler plus du langage de l'adoration. C'est quoi les mots, les termes qui sont utilisés, spécialement dans l'Ancien Testament, pour parler d'adoration. Mais juste une question pratique. La semaine dernière, nous avons dit que une des manières que Dieu s'est fait connaître à son peuple, c'est en révélant l'alliance qu'il voulait traiter avec son peuple. D'accord? Israël devenait un peuple d'adorateurs en entrant dans une alliance avec Dieu. Et j'ai juste mentionné que c'est un des éléments qui se poursuit dans le Nouveau Testament. Ça va se transformer, mais ça va se poursuivre. Puisque Jésus est venu sceller la nouvelle alliance par son sang. Verset. Cette semaine, quelle sorte d'adorateur est-ce que vous avez été? Si on pense à l'alliance que Christ a scellée avec vous et que vous avez scellée avec Christ. Est-ce que, lorsqu'on parle d'une alliance, on parle de deux parties qui font alliance ensemble? Jésus s'est engagé, Dieu s'est engagé à un certain nombre de choses envers vous, en faisant cette alliance avec vous. Et en embrassant la foi en Jésus-Christ, vous êtes entré dans cette alliance-là. Et il y a des choses que Dieu s'attend de nous comme adorateurs. Notre part de l'alliance. Quelle sorte d'adorateur cette semaine vous avez été? Je ne demande pas des réponses verbales, évidemment, c'est pour vous. Mais on va essayer d'apprendre à devenir des adorateurs puis réfléchir d'une manière biblique. Quelle sorte d'adorateur avez-vous été cette semaine si on pense à l'alliance que Christ a contractée avec vous? Est-ce que vous avez honoré votre part de l'alliance? Oui, tu veux essayer une réponse quand même, vas-y. Oui. Pardon? OK, allons-y avec des exemples pratiques. En prenant du temps dans sa parole, puis en quoi, si je veux essayer de revenir avec Jésus puis l'alliance, en quoi est-ce que j'honore l'alliance que Jésus a faite avec moi en prenant du temps dans sa parole? C'est une bonne réponse, évidemment, là. Tu es en train de l'honorer. Oui. Jésus a dit, demeurez en moi, ceux qui demeurent en moi. Gardez mes paroles, que mes paroles demeurent en vous, hein. Pour avoir une pensée qui est conforme à celle de Dieu. OK, d'autres exemples, allons-y, pratico-pratique, oui. On ne peut pas connaître Dieu intuitivement, OK. Donc, en prenant du temps dans sa parole, je m'en vais vers le Dieu qui se révèle pour le connaître, hein? Puis, il y a une dimension qui est liée à ça, qui est importante, c'est que lorsque je prends du temps dans sa parole, je m'assure que mon cœur pécheur, qui sa tendance naturelle, c'est d'avoir une autre pensée que celle de Dieu, est ramené à la pensée de Dieu. Hein? Fait que c'est pas juste que j'ai besoin d'entendre une fois qui est Dieu. J'ai besoin qu'il se révèle à mon cœur chaque jour davantage, à travers sa parole, bien sûr, pour que mon cœur pense comme Dieu. Parce que ma tendance naturelle, c'est la nature pécheresse. Oui, Suzy. Oui, oui. Au-delà de.
Quand on va dans sa parole, on cherche, mais il faut l'écouter aussi.
Oui.
Est-ce qu'on prend le temps de chercher sa volonté pour que ce soit le travail, les enfants, whatever? On a plein de décisions à prendre dans la journée. Fait que ça me frappait de voir que l'alliance que Dieu veut, hein, qu'on soit en relation, ça touche tout.
Oui. C'est ça, c'est ça. Alors, en voyant la semaine dernière, ce que Suzy mentionne, c'est qu'en voyant la semaine dernière la dimension d'alliance, on fait le parallèle facilement avec nos mariages, n'est-ce pas? Et donc, ça nous aide à voir plus concrètement, bien, une alliance avec mon épouse, c'est un dialogue. Puis, si je suis une épouse, je vais chercher à suivre sa direction. Si je suis un époux, je vais chercher à l'aimer, à me sacrifier pour elle. Ça commence à devenir concret dans tous les jours. Si j'ai fait une alliance avec Dieu, ça va se traduire comme ça. C'est un des éléments les plus importants à retenir de cette leçon-là, c'est que lorsqu'on lit l'Ancien Testament rapidement, puis on pense à l'Ancien Testament, puis on pense à l'adoration, on a tendance à penser au culte, ce qui se passait dans le temple, les sacrifices. Et là, on se dit, ça, c'était l'adoration. Mais bien comprendre l'adoration dans l'Ancien Testament, c'est comprendre qu'on parle d'un Dieu qui se révèle, qui vient traiter une alliance avec son peuple, celui qui devient son peuple. Et donc, ce peuple-là va honorer son alliance par un style de vie, par un mode de vie. Toutes les lois pratico-pratiques qui disent comment est-ce qu'on entre en relation les uns avec les autres dans la société, comment tu traites l'étranger qui vient au milieu de toi, comment tu vas te comporter avec celui qui a pris ta bête involontairement puis, ou qui te l'a emprunté, puis ta bête est morte pendant le travail, comment est-ce que tu vas agir envers lui? Bien, si je comprends l'alliance, je comprends que la manière que je vais me comporter avec mon voisin qui m'a emprunté mon bœuf et qui a tué mon bœuf à l'ouvrage,
mon char,
oui, c'est ça. Je vais comprendre que ça fait partie de mon adoration. Mais il faut que je saisisse qu'il y a une alliance, là. D'accord? On va développer ça davantage cette semaine. Alors, juste survoler rapidement pour ceux qui sont arrivés un petit peu en temps. Oui. Oui, ça c'est la révélation, absolument. C'est donc dans ces termes à lui qu'on va l'adorer. On va revenir aussi sur ça cette semaine. Les notes qui sont sur les feuilles, ce sont les notes de la même leçon que la semaine dernière. On complète cette leçon-là ce matin. Et puis, dans le courriel que vous recevez, ceux qui reçoivent le courriel, dans le courriel que vous recevez, il y a un lien vers une page sur le site Internet où vous allez pouvoir aller chercher toutes les leçons précédentes. Si jamais vous... Pardon? Avec l'audio, oui, c'est vrai. Excusez-moi, en plus, il y a l'audio. Alors, si vous êtes... En principe... OK. Quand l'audio se rend jusqu'à Samuel, Samuel amène l'audio jusqu'à vous. D'accord? L'autre chose que je voulais mentionner, c'est ça. Les notes qui restent, les imprimées, sont déposées au kiosque d'information. Vous êtes absent une semaine, vous n'avez pas accès à Internet, vous vous rendez au kiosque d'information, vous prenez une copie imprimée. Quand j'ai des nouvelles leçons imprimées, j'en apporte des copies imprimées pour le groupe complet. Il va y avoir un petit peu de perte, mais au moins on s'assure que les gens qui n'ont pas accès à Internet ont des notes, tout ça. Alors, révision rapide, on a parlé des thèmes. Il y a des thèmes qui sont très forts et très importants dans l'Ancien Testament lorsqu'on parle d'adoration. Et ces thèmes-là vont rester présents à travers toutes les Écritures. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se rappelle, sans regarder vos notes, de thèmes qu'on a mentionnés la semaine dernière qui vont être importants de comprendre dans l'Ancien Testament? Parce qu'après, ils vont nous suivre dans le Nouveau Testament, puis on va aller voir comment ils changent, comment ils évoluent. Révélation, rédemption, d'autres thèmes majeurs, l'alliance exactement entre Dieu et son peuple, et la vocation d'Israël. D'accord, on n'avait pas tout couvert ça, là, mais ça, ce sont quatre grands thèmes importants. Et on va parler de temple, on va parler des sacrifices, on va parler de différentes choses. Ces pratiques-là, ces ordonnances-là de la part de Dieu nous parlent de ces thèmes-là. D'accord? Si on parle du tabernacle, on parle de la présence de Dieu, ça nous aide à comprendre la révélation, ça nous aide à comprendre la rédemption, ça nous aide à comprendre l'alliance. D'accord? Donc ces quatre thèmes-là sont majeurs. Si vous pouvez terminer ou si vous pouvez évoluer dans votre compréhension de ces thèmes-là dans l'Ancien Testament, on va les revoir dans le Nouveau. Puis là, quand on va arriver dans le Nouveau, certains d'entre eux vont, en fait, ils vont tous se poursuivre dans leur cas, mais ils vont évoluer. La semaine dernière, j'ai parlé de continuité puis de discontinuité. Pour comprendre l'adoration dans les Écritures, puisque le Nouveau Testament est vraiment basé sur l'Ancien Testament, il faut que je sois capable, pour avoir une bonne compréhension de l'adoration, de comprendre ce qui se poursuit, ce qui se transforme et ce qui est complété, donc inutile, quand j'arrive dans le Nouveau Testament. D'accord? Le temple est encore là dans le Nouveau Testament. Il y a toute une transformation, par exemple. Il est transformé de manière majeure. Et si tout ce que j'ai compris du temple dans le Nouveau Testament, c'est que l'Église, c'est la maison spirituelle de Dieu, il me manque encore l'essentiel. Christ est le temple. Alors, il va falloir que je comprenne que l'Église, c'est la maison de Dieu, c'est le temple, mais Christ est le temple. Là, lorsque j'arrive dans l'Apocalypse puis que j'essaie de comprendre où est-ce qu'il est le temple? C'est quoi Jérusalem? Où est-ce qu'il est l'Église? Là, je commence à comprendre que c'est un tout, ça. Là. Il y a une union entre Christ et son Église. Il y a des choses qui tombent en place. D'accord? Donc, ça, c'est lorsqu'on parle de continuité puis de discontinuité. Il y a des choses qui continuent dans le Nouveau. Elles évoluent, elles se transforment. Si je veux être capable d'aller puiser à la richesse de l'Ancien Testament sans déformer les choses. Vous vous rappelez, la semaine dernière, j'ai mentionné, souvent les chrétiens, on a pris des images très fortes de l'Ancien Testament. Puis on s'en sert dans notre louange ou même dans nos enseignements ou tout ça. Mais sans avoir bien compris en quoi ça a évolué, ça s'est, j'oserais dire, amélioré avec le Nouveau Testament. Puis quand je ne comprends pas ça, bien, dans le pire des cas, je vais dire quelque chose de faux. Je vais porter atteinte à l'Évangile de Christ parce que je vais trouver que ce qui est dans l'Ancien Testament est plus beau que ce que Christ a accompli. Ça, c'est dans le pire des cas, admettons. Ou bien, je vais juste comme... rester à la surface, je ne m'en vais pas puiser dans la beauté de l'Évangile. Fait que si je vous dis que Jésus est le temple, ben, il faut que tu te rendes jusque-là pour comprendre la beauté de l'Évangile. Puis ça t'aide à comprendre après pourquoi Jésus nous dit qu'il est avec nous, qu'on a son esprit. Mais ça, on va le voir un petit peu plus loin. Quatre thèmes, révélation, rédemption, l'alliance, la vocation d'Israël et cette idée qu'il y a des thèmes qui vont se continuer, qui vont être transformés, puis il va y avoir des thèmes qui vont s'arrêter. Pas des thèmes, mais des éléments qui vont s'arrêter plutôt. Donc, on a parlé d'adoration en ce qui a trait à la révélation. Le Dieu qui se révèle à nous, le Dieu qui se fait connaître à son peuple. Ce Dieu-là se révèle principalement à travers l'Alliance. D'accord? Dieu se manifeste, mais il va se faire connaître plus précisément à travers l'Alliance. Oui, Diane. Pourquoi là?
Pourquoi la forme d'adoration a changé dans l'Ancien Testament? On adore pas Dieu de la même façon.
La question de Diane, c'est pourquoi la forme de l'adoration a changé? Je te dirais que je vais y répondre à travers le cours, dans l'ensemble du cours. Parce qu'à bien des égards, il n'a pas changé. Comme je l'ai mentionné la semaine dernière, on doit dire les choses comme elles sont. Israël, dans un sens, c'est un échec. D'accord? On s'entend quand je dis ça, Dieu est souverain, c'était selon le plan de Dieu, ça devait se produire comme ça. D'accord? Ce n'est pas un échec dans un sens absolu. Mais l'Ancien Testament, c'est la démonstration qu'Israël n'est pas à la hauteur de l'Alliance constamment. Donc, les choses doivent changer. Mais elles vont se continuer, il va y avoir un nouveau peuple. Fait que dans un sens, ça ne change pas. L'adoration ne change pas. Est-ce que si on dit, par exemple, donner une piste juste pour répondre à ta question, si on dit que dans l'Ancien Testament, c'est ça qu'on va voir comme résumé final, l'adoration, c'est un style de vie. Est-ce que c'est vraiment différent dans le Nouveau Testament? D'accord, on va arriver à la même chose, là. On va arriver à la même chose. Et c'est ça qui est malheureux lorsqu'on pense que l'adoration, c'est juste ce qu'on fait là, pendant la louange. Là. Ça, ce serait vraiment triste. Oui. Ben, Diane a dit qu'il y a beaucoup de violence dans l'Ancien Testament alors que dans le Nouveau, on n'en voit pas. C'est ça, je te dirais. En fait, c'est ça. Dans le Nouveau Testament, il y a beaucoup plus de violence que l'Ancien Testament. Dieu est tué. D'accord? Ouais, ben, tu me reposeras la question. Mais dans le Nouveau Testament, on trouve cette dimension-là où la colère de Dieu est aussi présente, la justice de Dieu, la sainteté de Dieu qui est, dans l'Ancien Testament, ça s'exprimait à travers le fait que Israël ne devait pas être en communion avec des peuples païens. Dans le Nouveau Testament, tu arrives, puis toute cette violence-là est là, elle est à la croix. C'est Christ qui la prend pour lui. D'accord? OK, j'avance avec juste mon résumé. On a vu la semaine dernière que l'adoration, c'est en réponse à la révélation de Dieu. C'est Dieu qui se révèle selon ses termes et conditions. C'est un Dieu que nous apprenons à connaître au fur et à mesure qu'il se dévoile à nous. En fait, au fur et à mesure qu'Israël apprend, au fur et à mesure qu'il se dévoile à Israël. Deuxième thème, la rédemption. L'adoration d'un peuple racheté. Je suis à la page 3 pour ceux qui veulent suivre dans mes notes au bas de la page. Ainsi, l'adoration agréée par Dieu ne doit rien à l'intuition, à l'imagination humaine, mais tout à l'initiative de Dieu. Je vous le dis, vous pouvez méditer là-dessus pour la prochaine année. Au fur et à mesure que vous allez parler avec des chrétiens et avec des non-chrétiens, vous allez voir que c'est une vérité qui est difficile à accepter. D'accord? On est à une époque où nous sommes au-dessus de Dieu et nous déterminerons qui est Dieu, même comme chrétien. Parce qu'on a un héritage, on arrive avec une pensée qui doit être réformée. D'accord? À la fin de ce paragraphe-là, on mentionne ce Dieu qui révèle son caractère et sa volonté à son peuple en le délivrant d'autres maîtres pour qu'il le serve de façon exclusive et en prescrivant le moyen de préserver sa relation avec lui. C'est le Dieu qui se révèle, mais c'est le Dieu qui sauve. Alors, il y a révélation, il y a rédemption. C'est le Dieu qui rachète un peuple esclave pour faire quoi avec? Pour faire un esclave de Dieu, un serviteur de Dieu. D'accord? Alors, ce n'est pas une alliance dans le genre, on est deux parties égaux, puis on s'assoit ensemble, puis on va dire, voici ce que je pourrais t'apporter, voici ce que tu pourrais m'apporter. Non, c'est une alliance du type, tu étais complètement perdu, sans avenir. Dieu, dans sa grâce, te rachète du mauvais maître que tu avais pour que tu entres dans son service et c'est là que tu vas trouver le bonheur. D'accord? Donc, c'est un Dieu qui se révèle, mais c'est un Dieu qui sauve. C'est un peuple de racheté. Et ça nous parle énormément de Dieu, ça nous parle énormément de nous. Puis ça va nous parler après comment être des adorateurs. Moi, je vous dis qu'à notre époque, en 2010, il y a beaucoup, beaucoup de chrétiens qui ont de la difficulté à vivre avec cette idée-là. Ça ne fait pas partie de leur conception des choses. Dieu m'a sauvé du péché pour me libérer. Oui, ta liberté est dans ton esclavage à Dieu, dans ton service à Dieu. D'accord? Je vous dis, il y a des chrétiens qui sont venus me voir, qui m'ont dit, Yannick, un chrétien, ce n'est pas un esclave. On sent toujours un maître, tout le temps, tout le temps. Et Dieu nous a rachetés pour qu'on soit un serviteur. D'accord? Quand on parle d'esclavage, on va parler d'obéissance, de service, d'être redevable, de soumission. Un bon maître va bien prendre soin de son serviteur. Tu veux être un serviteur de Dieu. Oui, Bruno. Absolument. On n'a pas le choix. Tout le monde est esclave. Celui qui est le plus esclave, c'est celui qui pense qu'il est esclave de personne, parce qu'en fin de compte, il est esclave de ses passions. L'ultime geste que Dieu peut poser envers un être vivant, c'est de le livrer à lui-même. Quand Dieu décide qu'il livre un homme à lui-même, il dit, regarde, tu vas être esclave de tes passions. On est encore esclave dans ce cas-là. Est-ce que c'est lorsqu'on a le sentiment ou la conviction qu'on est dépendant de Dieu, qu'on est le plus près de lui? Bien, si je comprends qu'on a été racheté, puis qu'on est entré dans une alliance, puis que Dieu nous a sauvés d'un mauvais maître pour qu'on le serve ensuite, oui, ça veut dire que je comprends mon rôle, je n'ai pas à être indépendant de Dieu, il m'a sauvé pour que je le serve. Alors définitivement, je suis en train d'entrer dans mon rôle d'adorateur. D'accord? Je continue. Donc, Dieu les a sauvés, les a délivrés d'autres maîtres pour qu'ils le servent, lui, de façon exclusive. Et ça, ça va revenir dans le Nouveau Testament, en prescrivant le moyen de préserver sa relation avec lui. Prochaine page, à page 4, juste vous relire Exode 19, parce que là, on va parler un petit peu de la vocation d'Israël. Exode 19, 4 à 6. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, c'est très conditionnel, là, il y a une condition, vous m'appartiendrez entre tous les peuples. Alors, on parle d'appartenance. Ils ne sont pas libres dans le sens qu'ils n'appartiennent plus à personne. Vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Là, on entre dans la vocation d'Israël. Israël est appelé à être un royaume de sacrificateurs, une nation sainte. Et du fait que Dieu dit ici, la nation doit être sainte. D'accord? C'est tout le peuple en entier qui va m'appartenir. C'est une vocation pour tout Israël. Quand je saisis cela, je comprends mieux pourquoi il y avait plein de lois civiles. Alors oui, il y a les prêtres, il y a les sacrificateurs qui sont tous les jours au tabernacle en train d'offrir des sacrifices, mais ce n'est pas juste eux qui ont une vocation, un appel sur leur vie, un rôle dans lequel ils doivent entrer. Il y a une vocation pour tout Israël au complet. C'est une nation sainte. Ça veut dire que c'est une nation à part, sanctifiée, mise à part pour Dieu. Comment est-ce que ça va s'exprimer? Par le fait qu'on va vivre toutes ces lois civiles. Par le fait qu'on va manquer ces lois-là, puis on va se rendre au temple pour le confesser, demander pardon à Dieu. Ta vocation me parle de l'adoration parce que ça me dit comment est-ce que je vais honorer ce Dieu-là, c'est en entrant dans ma vocation, dans mon appel. Dieu les a rachetés d'Égypte et il les a appelés à une vocation. Et si vous êtes pas mal familier avec le Nouveau Testament, c'est un langage qui est très, très, très présent dans le Nouveau Testament. La vocation à laquelle on a été appelé. D'accord? Ce thème-là va évoluer, mais il va être là dans le Nouveau Testament. Ça nous parle éventuellement de nous comme adorateurs. D'accord? L'auteur du livre résume ça avec trois éléments à la vocation. Un peuple précieux. C'est clair que c'est un peuple qui est précieux. Dieu dit, regardez avec quelle énergie, avec quelle grandiose je vous ai racheté d'Égypte. C'est un royaume de prêtres et puis une nation de sacrificateurs. Et ça, ça nous parle de la vocation d'Israël. On va aller voir comment ça s'exprime maintenant dans le culte puis tout ça. La semaine dernière, on a commencé à parler du tabernacle. Un des éléments à retenir du tabernacle, avant de parler des sacrifices, tout ça, c'est que le tabernacle nous parle de la présence de Dieu. D'accord? Le tabernacle nous dit que Dieu voulait être au milieu de son peuple, présent avec son peuple. Et c'est un thème qui continue dans le Nouveau Testament, qui est majeur dans le Nouveau Testament. On va atteindre une présence de Dieu comme jamais dans l'Ancien Testament. D'accord? Et là si le tabernacle me parle de la présence de Dieu, puis que Jésus est venu accomplir parfaitement tout ça, d'accord, le tabernacle, le temple, hop, là, je peux commencer à développer ce thème-là, là. Jésus toujours avec nous. D'accord? Mais ça vous donne des pistes comment est-ce que ces thèmes-là vont évoluer dans le Nouveau Testament. Ce que ça implique, si Dieu doit être au milieu de son peuple, il va falloir que le peuple soit saint. Parce que si Dieu est saint, puis Dieu va être au milieu de son peuple, le peuple est mieux d'être saint. Autrement, il va être détruit, il va être dévasté par la présence de Dieu. C'est un Dieu saint qui vient au milieu de son peuple. Page 5, je fais juste, c'est des choses qu'on avait déjà commencé à mentionner la semaine dernière. Regardez la citation d'Exode 29, les versets 42 à 46, la deuxième partie, je suis à la page 5. « C'est là que je rencontrerai les Israélites et ma gloire rendra ce lieu saint. Je consacrerai la tente de la rencontre et l'autel. Je consacrerai aussi Aaron et ses fils pour qu'ils soient mes prêtres. » « J'habiterai au milieu des Israélites et je serai leur Dieu, et ils sauront que c'est moi, l'Éternel, leur Dieu, qui les ai fait sortir d'Égypte pour habiter au milieu d'eux. Oui, je suis l'Éternel, leur Dieu. » Alors, dans le projet de Dieu, Dieu va habiter au milieu de son peuple. Et cette nation-là va devoir être adéquate pour accueillir la présence de Dieu, pour que ce Dieu-là soit au milieu d'eux. Et ça, ça nous parle de la vocation d'Israël, parce que finalement, c'est le peuple au milieu duquel Dieu vient habiter. C'est une vocation unique. Il n'y a pas d'autres peuples sur la terre qui ont ça. Il y a une relation avec l'Alliance aussi. Quand, pour vous donner un exemple, comment est-ce que ça va évoluer même dans les prophètes, c'est une des choses que les prophètes vont contester avec Israël. Puis si vous êtes familier un petit peu avec les prophètes, ils vont dire, vous allez offrir des sacrifices, puis vous pensez que ça, c'est un culte à Dieu, alors que vos vies sont remplies de corruption. Voyez-vous, la tendance naturelle, c'est de dire que l'adoration, c'est le culte. Là. Lorsque je me rends au temple, au tabernacle, je m'en vais offrir mes sacrifices, ça, c'est l'adoration. Le reste de ma vie est tout croche. C'est une nation sainte au milieu duquel Dieu veut habiter. Il ne suffit pas de me rendre au temple une fois par année pour aller laver mon linge sale. Dieu veut habiter au milieu de ce peuple-là. Et les prophètes vont observer la contradiction. Dieu, à travers ses prophètes, va dénoncer le fait que vous n'avez pas compris votre vocation. Vous pensez que vous venez offrir des sacrifices? Puis vous êtes en train de m'adorer, mais c'est toute votre vie qui est censée être une adoration. Vous avez une vocation, vous avez un appel. Je veux habiter au milieu de vous. Je n'habiterai pas au milieu d'un peuple qui vient se donner bonne conscience lorsqu'il vient au temple. Je n'habiterai pas au milieu d'un peuple comme ça. D'accord? Est-ce que vous voyez comment ça va être dénoncé par les prophètes? Mauvaise compréhension de l'adoration. C'est pas juste intellectuel, là. C'est de la rébellion aussi. Mais c'est pas ça l'adoration. Alors, quelques mots sur le système sacrificiel au bas de la page 6. Les sacrifices pour le péché, les sacrifices de réparation reflétaient l'intention de la loi de Moïse de traiter à la fois la transgression et les conséquences afin de préserver la relation d'alliance d'Israël avec son Dieu. Le but des sacrifices, c'était de préserver l'alliance. C'est de préserver la relation. Dieu avait pourvu sachant qu'Israël ne respecterait pas parfaitement l'alliance, a un moyen de préserver la relation avec lui. D'accord? C'est ça le but. Le but des sacrifices, c'est de préserver la relation, de préserver l'alliance. Juste un petit peu plus bas, l'autre partie qui est soulignée. La confession du péché est mentionnée en rapport avec deux des rites de sacrifice, ce qui suggère qu'en l'absence de repentir sincère, le rite ne servait à rien. Ça, on le trouve bien avant les prophètes. D'accord? Les prophètes, éventuellement, vont dire, « Mais oui, vous venez offrir des sacrifices, mais il n'y a pas de repentance. Votre vie ne change pas. Il n'y a rien qui change. C'est inacceptable. » Il y avait déjà cette provision-là dans la loi, où il devait y avoir une confession. Je devais dire de ma bouche le mal que j'ai fait. Parce qu'il devait y avoir une repentance. Le geste du sacrifice n'était pas suffisant pour rétablir la relation. D'accord? Donc, le but, c'est toujours de rétablir la relation avec un cœur sincère. Page 7, dans le haut, le Seigneur avait établi avec Israël une relation particulière, le distinguant des autres peuples pour qu'ils lui appartiennent. Cela devait s'exprimer dans le domaine du culte, tout le service avec les sacrifices, comme dans le domaine moral, toutes les lois civiles. La souillure et le péché devaient être évités dans tous les domaines de la vie, de sorte que soit maintenu cet état de consécration. Fait que lorsqu'on est dans l'adoration le dimanche matin, puis le dirigeant de louange, il, à un moment donné, il dit... On ne veut pas venir seulement offrir de l'adoration, des louanges à Dieu le dimanche matin. On veut que ce soit finalement le débordement de notre semaine qu'on est en train d'apporter ici. Mais c'était vrai dans l'Ancien Testament. Le but, c'était de maintenir la relation. Le but, c'était de rétablir la relation, de maintenir l'alliance, que Dieu soit toujours bienvenu au milieu de son peuple. Dieu a dit, je ne serai pas toujours bienvenu, vous allez pécher. Puis si on laisse les choses comme ça, ben, je veux dire, au premier péché, je referme mes valises, puis je m'en vais, puis vous êtes une nation comme toutes les autres nations. Je me serais fait connaître à vous, mais je ne peux pas rester au milieu de vous. C'est impossible. Alors, je veux rester au milieu de vous, je vais pourvoir aux moyens nécessaires. Vous allez pouvoir confesser vos péchés, vous repentir, pour préserver la relation. Je vous pose une question comme ça. Est-ce que ça, c'est encore présent dans le Nouveau Testament ou est-ce que ça disparaît du Nouveau Testament? En quoi c'est présent? Est-ce que quelqu'un pourrait me donner un ou deux versets qui vous viennent à l'esprit qui nous expriment ça? Oui, Camille. Ah, oui. Alors, 1 Jean, hein, si on confesse de notre bouche nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. On est encore ses enfants, mais il y a quelque chose qui s'est passé, là. Il doit nous pardonner, il demande qu'on confesse. D'accord? Ça, c'en est un. Un autre domaine où on va voir qui parle, lui, de bris de relation. Oui, on doit se confesser, ça, c'est clair. Oui, oui. On va voir, lorsqu'on va arriver dans le Nouveau Testament, Mme Paradis, elle demande, dans le fond, ce que vous voulez, là où vous voulez aller, c'est la permanence du salut, le fait qu'on est entièrement sauvé. On va voir ça, c'est un élément qui se transforme dans le Nouveau Testament qui est important, d'accord? Alors, tout est accompli, mais d'un autre côté, il semble qu'on peut attrister l'esprit, voire même éteindre l'esprit. D'une part, plénitude de l'esprit, c'est ça qu'on doit rechercher. Plénitude de l'esprit dans l'Ancien Testament, on pense au temple, à la présence de Dieu en train de marcher selon Dieu. Mais il semble qu'on peut attrister l'esprit, voire éteindre l'esprit. Ça, on s'en va vers manifestation de la présence de Dieu, la plénitude, tout ça, d'accord? Vous voyez, c'est des thèmes qui se continuent. Oui, alors c'est une bonne question. Christ nous dit que tout est accompli à la croix, c'est ce qu'il déclare. Qu'est-ce qu'on fait avec ces idées-là qui sont présentes quand même dans le Nouveau Testament où on peut éteindre l'esprit? On va le voir ensemble en développant la nouvelle alliance, d'accord? Mais c'est simplement pour dire que c'est encore là, là. Donc, c'est normal que je me dise, est-ce que je suis près de Dieu actuellement si je tolère des péchés dans ma vie? C'est un Dieu saint qui veut se manifester dans ma vie. D'accord? Il y avait un bris de relation dans l'Ancien Testament. Il y a quelque chose qui peut se briser dans le Nouveau Testament. Parce que ce même Dieu Saint-là qui était dans le tabernacle, veut remplir tout mon cœur et toute ma vie. Et pour qu'il y ait une plénitude de l'esprit, il faut qu'il y ait une consécration, il faut que je marche avec ma vocation. D'accord? Vous voyez, ça, c'est des thèmes qui vont venir. Est-ce qu'il y a quelqu'un que je perds totalement, là? Est-ce que mon langage est trop complexe, Diane? OK. Est-ce que vous me suivez? Faites juste me faire signe de la tête. Ça va dans l'ensemble? Merci. OK. Oui, ça, c'est une autre chose. Ça, c'est une autre chose de le mettre en pratique. Oh non, on ne dirait jamais qu'on ne pêchera plus. Diane demande si ce serait présomptueux de dire qu'on ne pêchera plus. Non, c'est pas ça que je dis. Dans l'Ancien Testament, Israël allait pécher encore, et donc Dieu a pourvu un moyen de se repentir. Même chose dans le Nouveau Testament. Si nous pêchons, il est fidèle et juste. Jean va plus loin, il dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, hein, on se trompe nous-mêmes. Oui, alors dans le Nouveau Testament, le chrétien va continuer à pécher, nous branchons tous de plusieurs manières, on va continuer à être pécheurs, puis il y a une provision qui est là pour que je me repente. Oui, oui, c'est ça. Je peux briser la relation en péchant dans le Nouveau Testament aussi. Puis il faut que je me repente pour rétablir. Je vais continuer, OK? Au bas de la page 7, le culte et l'avenir du peuple de Dieu. Je saute des parties, comme vous le voyez dans mes notes, parce que je ne rentrerai pas long, on n'arrivera pas à avancer suffisamment. Alors, au bas de la page 7, le culte et l'avenir du peuple de Dieu. Je vais vous lire tout simplement le petit paragraphe que j'ai écrit ici. On a parfois l'impression, en lisant les prophètes, que ces derniers s'opposent aux rites pratiqués dans le temple. Il y a certains prophètes dans des phrases qui disent, on a pratiquement l'impression qu'ils sont contre les sacrifices. D'accord? Oui, certains d'entre eux ont été mis à mort, en effet. En réalité, ils sont en train de dénoncer les abus et le non-respect de l'esprit de l'Alliance. C'est ça que je mentionnais tout à l'heure, d'accord? Les prophètes sont là pour dire, vous vous bernez. Dieu vous a donné quelque chose de fantastique, vous êtes en train de l'appauvrir, puis vous ne l'honorez pas. Vous le faites des lèvres, votre cœur n'est pas là, ça ne vaut rien. Et dans un sens, les prophètes sont en train de préparer le Nouveau Testament. Parce qu'on sent l'insatisfaction de Dieu grandir. Puis Dieu est en train de préparer ce qu'il avait annoncé. D'accord? Il est intéressant de noter que certains psaumes reflètent la perspective prophétique. Je les ai mis, vous pourrez prendre le temps d'aller les lire. On dirait pratiquement qu'ils sont en train de condamner tout le système des sacrifices, tout ça. D'accord? Regardez au haut de la page 8. Il semble cependant destiné à exprimer la véritable signification des rites sacrificiels, en insistant sur le caractère essentiel de la prière, de la louange, de la repentance, de la confession, de l'obéissance. Les adorateurs doivent reconnaître qu'ils ne peuvent rien apporter qui satisfasse les exigences de Dieu. Et donc, il y a une attitude de cœur, il y a une contrition de cœur. Dieu aime le cœur qui est brisé par son propre péché, parce que c'est un cœur humble, qui mesure son besoin d'être racheté, d'être sauvé. C'est un cœur d'adorateur. D'accord? Et ces psaumes-là vont dans ce sens-là, les prophètes vont dans ce sens-là, alors que Israël s'appuyait sur le fait que, ben, de toute façon, je vais pouvoir aller laver mon dossier. Ma vie peut être tout crasse, je vais pouvoir aller juste comme laver mon dossier lorsque je vais aller offrir les sacrifices. Juste une phrase que j'ai trouvée importante à souligner aussi dans le prochain paragraphe. Les prophètes, ces psaumes-là, affirmaient le caractère conditionnel de la protection divine. Ça revient constamment dans l'Ancien Testament. Ce n'est pas entièrement absent dans le Nouveau Testament. Lorsque Normand et moi, on a décidé d'aller dans l'Évangile de Matthieu, je savais que j'entreprenais un livre très, très long. On savait que ça allait être très long. Ça fait déjà quelques années qu'on est dans Matthieu. Mais une des dimensions que moi, je voulais aller faire sortir dans Matthieu, puis là, juste en le disant, vous allez m'entendre plein de mes prédications, c'est cette idée que Jésus répète, si vous êtes mon peuple, vous allez porter des fruits. S'il n'y a pas de fruits, faites-vous pas de faux espoirs. Et ça, là, à travers Matthieu, ça revient constamment. Jésus dénonce un peuple qui n'a pas donné les fruits, puis il vient se donner un peuple qui va donner des fruits. Et si les fruits ne sont pas là, si je ne fais pas la volonté du Père, je ne devrais pas avoir une fausse sécurité. D'accord? Nous, on va tout de suite se lancer dans des textes de Paul, dans Éphésiens, dans Romains, puis l'assurance, puis c'est sûr, puis c'est certain. Lisez comme il faut Paul. Paul dit exactement la même chose. Si toutefois vous avez reçu l'Esprit, c'est ça que Paul dit. Si toutefois vous avez reçu l'Esprit, il dit la même chose. D'accord? C'est la même idée qui est là. Alors, ce n'est pas des thèmes qui... L'élément conditionnel, ce ne sont pas des thèmes qui disparaissent dans le Nouveau Testament. Ils vont évoluer avec une grâce extraordinaire. Nous sommes sauvés par grâce. Nous sommes sauvés pour toujours. On va voir comment ça évolue, d'accord? Mais c'est là. Et si on met ça de côté, bien, en fait, une partie des gens qui sont dans l'Église vont mettre ça de côté, mais ils ne sont pas l'Église. Et lorsqu'ils vont arriver de l'autre côté, les paroles prophétiques de Jésus vont s'accomplir. Ce ne sont pas tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux. Puis il y en a qui vont dire « Oui, mais on a fait des miracles en ton nom. » Oui, mais je veux dire, regardez, il y en avait plein de miracles qui se faisaient dans ce temps-là. C'est ceux qui font la volonté de mon Père. Parce que Israël a été insatisfaisant et Jésus vient se bâtir un peuple qui va marcher avec Dieu. Donc, toute la dimension de ce respect, cette crainte, cette révérence envers Dieu qui nous amène à examiner nos vies. Puis là, tu t'en vas lire un Jean, puis là, tu lis un Jean, puis tu dis, « Tabou, je suis chrétien, moi. J'ai un péché qui traîne dans ma vie, puis ça n'arrête pas. » Puis tu sais, mais c'est le temps quand même de me poser la question. Puis si je suis chrétien, le fait de lire un Jean, ça va me troubler, puis ça va me conduire à la repentance. Et le fait même que je me repens, c'est déjà un fruit de l'esprit. Celui qui ne se repent pas n'a pas l'esprit. Celui qui se repent a l'esprit de Dieu. Fait que je ne suis pas rendu encore, mais je suis contrit par mon péché, insécurisé par le fait que je dis, « Boy, j'aimerais ça voir plus de fruits dans ma vie. » Puis je me repens. Ouf, l'esprit de Dieu est à l'œuvre. C'est extraordinaire. Je suis la personne qui se voit comme un pauvre spirituel. Celui que Dieu cherchait dans l'Ancien Testament. D'accord? La personne qui est attristée par son péché. Oui, Mme Paradis. Bien, Mme Paradis demande pourquoi on est sauvé par grâce plutôt que de dire on est sauvé par Jésus-Christ. On est sauvé par la grâce que Jésus-Christ nous a acquis. D'accord? C'est pas juste Jésus qui est venu. Si Jésus n'était pas mort sur la croix, il n'y en a pas de salut. Jésus était là dans l'Ancien Testament. Jésus, on s'entend, le Fils de Dieu était là dans l'Ancien Testament. D'accord? Oui, mais c'est par son œuvre de grâce. C'est vraiment par la grâce. Et ce que je veux souligner avec ça, c'est que c'est pas à force d'obéissance que je vais gagner mon ciel. C'est pas ça que je suis en train de dire. D'accord? Je ne voudrais pas que vous compreniez que je suis en train d'enseigner le salut par les œuvres. Mais je suis certainement en train d'enseigner que celui qui est sauvé va avoir les œuvres. Et que lorsqu'il n'a pas les œuvres, il est attristé de ne pas avoir les œuvres et il le confesse. Et lorsque trop longtemps, il reste assis dans le fait qu'il n'y a pas d'œuvres, puis il y a comme un certain confort là-dedans, lorsqu'il ouvre les Écritures, son cœur est bouleversé et il se repent. Ça, c'est tout des fruits de l'Esprit. D'accord? Donc, je ne suis pas en train de dire que nos vies sont parfaites, là. Non, non, on bronche tous de plusieurs manières. On va rester pécheurs jusqu'à la fin. Il va y avoir des moments où on est assis dedans, mes amis, puis ça a l'air de bien aller. Puis là, les conséquences commencent à tomber sur notre vie. Puis là, ça va mal, puis les relations s'embourbent, puis tout ça. Mais c'est des conséquences du fait que je ne suis pas rempli de l'esprit. Il y a plein d'affaires qui dégénèrent. Les relations vont mal. J'ai le cœur amer. Je ne suis pas rempli de l'esprit. Je me suis assis dans mon péché. Puis là, oups, à travers une prédication, un frère, à travers les Écritures, ouf, ça commence à être lourd, tout ça, puis je m'en retourne à la croix. Je confesse les péchés. Ça, c'est l'œuvre de l'Esprit dans ma vie. D'accord? C'était une bonne parenthèse. Ça va bien, ça va bien. Il reste deux pages. OK. Avant de faire la conclusion puis de faire le résumé pour l'Ancien Testament, je veux simplement souligner le fait que dans les prophètes, l'aspect temporaire du temple, les prophéties concernant le nouveau temple sont importantes. Ça nous parle encore de la relation avec Dieu, de la présence de Dieu, de la communion de Dieu avec son peuple. Ça nous donne la mesure de l'insatisfaction de Dieu. Alors, si vous regardez ce que j'ai souligné dans la page 8, au centre de la page à peu près, on parle de ce que les prophètes disent par rapport au temple. Certains annoncèrent même que le temple serait rétabli et deviendrait le centre spirituel non seulement d'Israël, mais aussi des nations. Dans l'avenir, il adviendra que la montagne sur laquelle est le temple de l'Éternel sera fermement établie au-dessus des montagnes. Elle s'élèvera par-dessus toutes les hauteurs et toutes les nations y afflueront. Lorsqu'on va aller dans le Nouveau Testament, puis qu'on va aller dans le livre d'Hébreu, et qu'Hébreu nous parle de la montagne que nous avons touchée, on va pouvoir se demander si c'est fait, si c'est accompli. D'accord? Lorsqu'on va aller un peu plus loin dans le Nouveau Testament. Mais donc, il y a de l'insatisfaction, il y a quelque chose qui s'en vient, et il annonce que ça va être ouvert à toutes les nations. La prophétie de restauration d'Ézéchiel comprenait même un plan de nouveau temps. Tout comme l'achèvement du tabernacle constituait la fin et la conclusion logique de l'Exode, l'eschatologie, c'est-à-dire la doctrine de ce qui vient, de ce qui est à venir, est ici dominée par la construction du nouveau temple. C'est quoi le nouveau temple? Est-ce que ça va être celui qu'ils ont reconstruit au retour de la déportation? Est-ce que ça va être Christ? Est-ce que ça va être l'Église? D'accord? Alors ça, c'est annoncé. Puis en fait, on était dans Néhémie cette semaine, puis c'est pas tout le monde qui était dans la joie lorsqu'ils ont vu le nouveau temple. C'était pas wow! C'est sûr, wow, ça va être Jésus. On n'est pas rendu là. D'accord? La conclusion. Et dans le fond, là, ce que vous avez à retenir de dimanche dernier puis de cette semaine se trouve à peu près ici. OK? Puis ça va être développé ensuite lorsqu'on va avancer avec le Nouveau Testament. L'initiative de Dieu pour se révéler. Ça veut dire que si je veux grandir comme adorateur, je réponds à la révélation de Dieu. Je suis constamment en train de répondre à Dieu. Lorsque je veux me demander si je suis en train d'être un bon adorateur, la question c'est, est-ce que je réponds bien dans la situation que je vis à ce que Dieu m'a fait connaître de lui? Je suis au travail, pression avec le patron, insatisfait, il me tombe sur le dos. Je veux savoir si je suis un bon adorateur. Qu'est-ce que Dieu m'a révélé sur lui, sur ce qu'il attend de moi dans cette situation-là? Je veux savoir si je suis un bon adorateur. Tension dans notre couple. On discute, mais je ne me sens pas compris. Puis j'ai l'impression que c'est toujours moi qui dois passer par-dessus parce qu'elle ne me comprend pas. Je veux savoir si je suis un bon adorateur. Je vais retourner vers les Écritures. Qu'est-ce que Dieu m'a fait connaître de lui? Boy, de lui. OK. Encore que je passe par-dessus. D'accord? Est-ce que c'est ça qui m'a fait connaître de lui? Qu'est-ce que Dieu m'a fait connaître sur mon rôle? En plus de ça, t'es le mari, copain. Là. Il a tellement passé par-dessus qu'il est mort sur la croix. Fait que tu devrais même le faire avec un beau sourire et avec joie. C'est un acte d'amour de passer par-dessus. D'accord? Et je veux savoir si je suis un adorateur. Mais quand je parle comme ça, je n'ai pas parlé du sentiment que j'ai lorsque je suis dans la prière. Je n'ai pas parlé d'un état de grâce. Là. Puis si vous remarquez, dans tout ce qu'on a parlé dans l'Ancien Testament, on n'a pas parlé d'un état de grâce. On n'a pas beaucoup parlé d'émotions. Pourtant, l'Ancien Testament est rempli d'émotions. Lisez les psaumes, c'est plein d'émotions. Est-ce que les émotions, c'est l'adoration? Ou est-ce que les émotions, c'est le fruit qui vient de l'adoration? Avez-vous suivi sur la question? Diane demande, est-ce qu'il n'y a pas d'exaltation dans l'adoration? Il y a de l'exaltation lorsque j'obéis à Dieu. Est-ce que l'exaltation, c'est ça l'adoration? Pas dans ce qu'on a vu à date dans l'Ancien Testament. Donc, il y en a beaucoup. Pour répondre à ta question, oui, il y en a beaucoup. Mais dans ce qu'on a vu à date, ça ne semble pas être ça l'adoration. C'est plutôt le fruit de l'adoration. Oui, Suzy. La question de Suzy, c'est est-ce qu'on pourrait dire que l'adoration, c'est un choix, c'est une réponse à Dieu? Ben, OK, c'est une décision rationnelle, puis après ça, les émotions vont suivre. J'ai un petit peu de difficulté avec ça, je t'explique pourquoi. C'est une décision, oui. Moi, je pense qu'une décision, c'est pas quelque chose d'uniquement rationnel. OK, donc je pense que pour parler bibliquement, l'adoration, c'est le fruit d'une décision. Là, on importe quelque chose qui n'est pas vraiment présent dans les Écritures. C'est cette séparation entre une décision rationnelle puis l'élément émotif. Je pense pas que ça existe dans la Bible, cette affaire-là. On est un, on prend les décisions qui honorent Dieu avec notre logique, puis nos tripes, puis ça, c'est un. D'accord? Fait que c'est peut-être juste la nuance que je ferais. Mais c'est une décision.
Parce que si on attend d'avoir des émotions,
OK. Amen. Je suis d'accord. Alors, si j'attends les émotions, je risque de rien faire. C'est une décision. Alors, si je prends le langage de la décision, l'adoration, c'est le résultat d'une décision que je vais prendre, peu importe les circonstances. Des fois, je vais aller contre mes tripes, c'est vrai. Mais même ça, c'est pas sans émotion. Quand je décide avec ma tête, si j'étais Jésus dans le jardin de Gethsémané, là, il y avait une partie de ses émotions qui disait « Non, je veux pas ». Mais est-ce qu'il n'y avait pas une partie de ses émotions qui ont dit « Père, je t'aime, je vais faire ta volonté ». Ce n'était pas juste rationnel, ça. Là. C'est avec son être intérieur. D'accord? Alors, il n'y a pas nécessairement une opposition. C'est sûr que ce ne sera pas juste mes émotions parce qu'il y a une partie de mes émotions, des fois, qui ne veulent pas faire la volonté de Dieu. C'est ma chair. Je pense que ce serait plus juste de dire que je n'écouterai pas ma chair, puis je vais écouter la parole de Dieu et je vais appliquer mon intelligence, mon cœur, mes émotions à faire la volonté de Dieu. Mais ma chair va prendre des fois le contrôle de mes émotions puis des peurs. C'est mes pensées aussi. Je veux dire, si j'ai peur de faire la volonté de Dieu, c'est pas juste émotif cette affaire-là, c'est parce qu'il y a une peur, là, on peut la nommer cette peur-là. Donc le rationnel est là encore. OK, c'est juste qu'on fait une espèce de... On tranche avec un langage qui est très moderne, puis je trouve qu'il déplace le débat. Il devrait y avoir beaucoup, beaucoup d'émotions dans notre adoration. Tout le temps. Puis il y a des émotions lorsqu'on choisit, on pense juste rationnellement de faire le bien. Il y a des émotions derrière ça. Oui, Robin? Toujours le combat entre la chair puis l'homme nouveau. Amen. Amen. On a entièrement gagné, puis c'est pas fini. Absolument. Oui, oui, tout à fait d'accord. C'est un combat qui va être perpétuel jusqu'à ce que le Seigneur vienne nous chercher. Amen. Tout à fait d'accord. Paul, tu avais un commentaire? OK. Ah, c'est frotté là. C'était une émotion. On les accepte aussi. Oui, Linda. Mais en fait, non seulement il n'y a rien d'impossible, mais il nous a promis qu'il allait terminer le travail. Donc, on est plein d'espérance, même si avec nos yeux, on dit « bon, il y a du travail à faire ». Mais je voudrais juste revenir sur ce que Suzy a mentionné, parce que c'est quand même dans ce sens-là que je m'en allais. On répond à l'initiative de Dieu. Le christianisme, le judaïsme premièrement, mais le christianisme, c'est une religion où on s'adresse premièrement à l'individu, on l'informe, on s'adresse à son intelligence, et c'est avec ça qu'il va répondre, avec tout son être. D'accord? Mais on répond à une information qui est donnée, puis on choisit de répondre à ça. Là, vous pouvez penser à plein d'autres religions où ce n'est pas ça qui se passe. D'accord? Dans le bouddhisme, dans les méditations, dans toutes ces choses-là, il n'y en a pas de révélation, c'est la révélation de toi à toi. Tu écoutes le grand silence intérieur, puis à travers ça, tu vas entrer en contact avec toi. Je ne suis pas sarcastique quand je dis ça. En gros, c'est quand même ça. Donc, il n'y a pas d'information objective. Dans l'Ancien Testament, il y a beaucoup d'informations objectives que Dieu donne. Dieu se fait connaître, puis il nous donne des informations. Il y avait une question ici? Oui. OK. Oui, je vais juste faire résumer. Donc, on a tendance à faire une distinction entre ma décision de suivre Christ puis ma décision d'être un adorateur. Puis, ce que Annie dit, c'est qu'en réalité, les deux vont ensemble. Bien, si je comprends bien l'Ancien Testament, l'Alliance de l'Ancien Testament, à partir du moment, je la porte dans le Nouveau, là, à partir du moment où j'ai décidé de suivre Jésus, j'ai contracté une alliance avec lui. Et j'ai décidé de devenir un adorateur, non plus de moi, non plus du diable, non plus du monde, non plus de Bouddha, non plus de Allah, mais du Père céleste de Jésus-Christ. Je suis entré dans une alliance avec lui. J'ai décidé de devenir un adorateur. Là, la question, c'est comment je vais vivre ça au quotidien? Comment je vais honorer cette alliance-là? Oui, vous aviez une autre question. Oui? Oui. Oui, alors la question qui est posée, c'est dans le Nouveau Testament, est-ce que le temple, ce n'est pas le croyant en qui habite l'Esprit-Saint? Définitivement. Ça, on va le voir. Donc, c'est pour ça que dans le cours, là, si vous lisez les notes à partir du début, je parle de continuité puis de discontinuité. Ça, c'est un des sujets qui va évoluer lorsqu'on passe au Nouveau Testament. D'accord? Juste mentionner encore quelques notes ici. Ce qui est souligné, d'accord? Dieu a libéré son peuple de l'esclavage d'Égypte afin qu'il le serve et l'adore à l'exclusion de toute autre divinité. On essaie de résumer l'Ancien Testament. Je ne suis pas dans le Nouveau. Ça va revenir dans le Nouveau. Ensuite de ça, un peu plus bas, reconnaître la présence sainte et royale de Dieu et vivre en conséquence. Alors, si vous avez quelque chose à retenir, là, le paragraphe qui commence un petit peu plus bas, où la phrase commence un peu plus bas, dans ce cadre d'alliance, le système sacrificiel constituait le moyen par lequel Dieu permettait à un peuple pécheur de s'approcher de lui pour recevoir sa grâce et sa bénédiction sans souiller sa sainteté ni encourir sa sainte colère. Ça résume pas mal l'Ancien Testament. D'accord? Donc, dans l'Ancien Testament, Dieu se révèle à un peuple qui l'a choisi. Il se révèle en le rachetant et en l'invitant à entrer dans une alliance. Cette alliance-là va dire tout ce que Dieu donne et tout ce que Dieu attend comme réponse du peuple qu'il a racheté. Ce qu'il attend, c'est qu'elle soit une nation sainte au milieu de laquelle il va être prêt à habiter. Pour qu'elle soit sainte, ce n'est pas juste les prêtres qui vont le faire, c'est tout le peuple qui doit marcher dans la sainteté. Ce peuple-là va manquer. Ne pourra pas marcher parfaitement dans la sainteté. Dieu pourvoit à un moyen de préserver la relation malgré les manquements d'Israël. D'accord? Tout ça va être imparfait. Israël va être déporté. Même dans le retour de la déportation, on parle de quelque chose de mieux qui s'en vient, puis on va se tourner tranquillement vers le Nouveau Testament. Dans tout ceci, on a parlé d'adoration, puis on n'a pas parlé encore d'émotion. On n'a pas parlé d'exaltation. Je veux le souligner parce que dans le langage de l'Ancien Testament, l'adoration, ce n'est pas premièrement un sentiment. C'est premièrement une décision et une action qui va être accompagnée de plein de sentiments. Mais il ne faut pas méprendre un pour l'autre. D'accord? Dans l'Ancien Testament, l'adoration, ce n'est pas premièrement un sentiment. C'est d'abord une décision d'entrer dans une alliance avec un Dieu qui rachète son peuple et de passer à l'action conformément à cette alliance-là. Tout le peuple doit entrer dans cette adoration-là. Alors, les émotions vont toujours être présentes quand je suis en train de chanter des louanges à Dieu, même quand je suis en train de servir Dieu, même quand je suis en train de faire du bien à mon voisin qui m'a pris mon char et qui l'a scrappé, puis que je décide de ne pas me venger. Il y a des émotions qui sont là, puis si je le fais avec joie, il y a de la joie qui est là. Je suis en train d'adorer, je suis en train de servir. D'accord? Si j'étais dans l'Ancien Testament, on va voir comment ça se porte dans le Nouveau Testament. Mais ce n'est pas premièrement les émotions. Et j'ai rien contre les émotions. Si elles ne sont pas là, vous n'êtes pas des adorateurs. Parce qu'encore une fois, comme j'ai dit tantôt, je pense pas que c'est biblique de faire une distinction en disant c'est rationnel, puis il y a l'émotif. Je ne pense pas que c'est un langage biblique, mais en fait, je pense que ça ne représente pas l'être humain. On ne fonctionne pas comme ça, ce n'est pas vrai. Il y a des choses, il y a des décisions qu'on prend qui ne suivent pas certaines émotions qu'on vit, mais on les prend parce qu'il y a d'autres émotions qu'on vit. Je reste avec mon épouse quand ça va bien, comme quand ça va mal, parce que j'ai choisi de l'aimer et il y a des émotions qui vont avec ça. C'est toute ma volonté qui est appliquée à le faire, d'accord? Oui, ce que Robert mentionne, c'est que dans l'Ancien comme dans le Nouveau, ça revient à la question de est-ce que je vais me soumettre à la volonté de Dieu pour faire sa volonté?
Parce que la tendance de l'homme, c'est justement de ne pas faire la volonté de Dieu, mais d'aller offrir des sacrifices pareil comme quelqu'un qui fait la volonté.
Oui. On va s'appuyer. Oui.
Oui.
On va donner l'impression qu'on l'a fait juste en allant offrir des sacrifices dans l'Ancien Testament ou juste en tenant le style d'une vie chrétienne dans le Nouveau Testament, admettons. Maintenant, ce qui est intéressant pour nous d'aller déposer la base de l'Ancien Testament, je m'arrête là-dessus, c'est de voir en quoi ça va se continuer dans le Nouveau Testament. D'accord? On est encore un peuple racheté, encore un peuple qui a été racheté d'un esclavage, qui est appelé à une vocation, qui est appelé à la sainteté. Vous allez voir comment ça se transpose. Mais souvent, on ne va pas puiser là, puis on a une espèce de vision de la vie chrétienne que Dieu m'a sauvé pour que je sois libre. Oui, libre de vivre pour lui. Point. Là-dedans, tu vas trouver ta joie puis ton bonheur. D'accord? Alors, bonne semaine. Si vous êtes arrivé plus tard, puis vous dites, hey, ça serait intéressant, la semaine prochaine, à 9h, on continue. Et puis, sur la première page, sur la page d'accueil du site Internet, vous allez trouver cours biblique. Vous cliquez là-dessus. Vous allez à mon cours en esprit et en vérité. Vous allez trouver les notes des semaines précédentes. D'accord? Ceux qui n'ont pas signé votre présence sur la feuille de M. Famelard, je vous demande de le faire. C'est pour notre information à nous. Si vous voudriez recevoir le courriel qu'on envoie chaque semaine, mettez votre adresse électronique. Merci.